vie paysanne.
Cinquième vie, Pierre le Bugle.
Quand je vois tous ces Parisiens se crever, gagner trois fois rien, habitant des cages à lapins, je me dis que c'est plaisant d'être né paysan.
Histoire avec Pierre le Bugle, qui est un petit paysan du sud pays d'Auge,
eh bien, en Normandie,
est arrivé à la suite d'une période assez longue de travaux de recherche menés à partir de du milieu des années 90 par deux chercheurs, deux enseignants chercheurs, un géographe, un historien, qui étaient donc Roger Calmes et Jean-Marc Morisseau. À ce moment-là, j'étais en doctorat de géographie et j'y ai participé en tant que petite main de travail d'enquête sur le terrain auprès des agriculteurs. Dans ce travail pluridisciplinaire, on a été amené évidemment à rencontrer les habitants de la commune, la municipalité, et un jour, il y a le maire qui nous dit « Ah, vous devriez aller voir Pierre Lebuc, qui est un paysan qui est à la retraite, qui est né à Camembert, qui habitait à Camembert, et qui est dans la commune d'à côté, dans la commune de Survie, au village Caillou. » Donc, on est allé le voir. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà plus de 80 ans, hein, 1921. Et quand on est allé le voir, il a pensé tout de suite qu'on venait le voir pour un élément, une période de sa vie particulièrement importante, qui a été sa période du service du travail obligatoire. Et ça, c'est quelque chose qui l'avait marqué, puisque il avait écrit sur des carnets, sur des agendas, ce qu'il avait, son périple, hein, entre 1943 et son retour en 1945, en août 1945, à Camembert. Ce qui nous a tout de suite intéressé, c'est que c'était quelqu'un qui partait au STO, comme beaucoup de Français sont partis au STO, mais qu'il était dans une exploitation agricole à l'est de Berlin. Et dans une exploitation qui changeait radicalement de là où il était, hein. Il était chez ses parents encore quand il est parti, et toute petite ferme de 7-8 hectares, hein, en élevage. Et là, il arrivait dans une exploitation de plus de 600 hectares, dans un grand domaine, où il est resté pendant plus de 2 ans. Puis ensuite, il a été... Donc, dans ses carnets, on avait tout le détail, presque jour par jour, de ce qu'il faisait sur ce camp. On a fait un article dans l'Histoire et la Société Rurale sur cette source. C'est en allant lui redonner l'article, hein, qui était dans la revue, on lui a donné la revue, et donc là, il était très content, presque célèbre, hein, parmi tous les historiens de France et de Navarre. Donc, on lui apporte la revue et un extrait aussi de la revue d'histoire. Et là, eh bien, on lui demande à la fin, il ouvre une bouteille de champagne, et on lui demande à la fin, mais est-ce que vous avez continué à écrire quand vous êtes rentré de l'STO? Et là, il nous dit,
évidemment.
Il nous dit, venez avec nous. Mais il nous dit, ça vous intéressera pas, hein, c'est des carnets que j'ai écrits tous les jours, entre 1945 et quand il est revenu, jusqu'en 71, il avait tous les carnets. On le suit vers le grenier, vers son grenier, et là, on trouve ce carton avec tous les carnets pêle-mêle qui étaient dans son grenier, tout poussiéreux.
Il écrivait tous les jours.
Dans des agendas donc industrialisés, hein, préfabriqués, si on peut dire, mais pas utilisés comme un agenda, mais comme un carnet du travail fait, comme les livres de réseau. Et là, eh bien, avec Jean-Marc Morisseau, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette documentation?
Dans la maison de Normandie, tout a rouillé, tout a jauni, mais le bonheur est encore là, blotti. Dans les détails, dans les taillis, dans les fleurs qui n'ont pas fleuri, et le bonheur est dans mon cœur aussi. L'herbe rase et les pommiers morts, rien n'est triste dans ce décor, on dirait de l'amour qui dort.
On a une source extraordinaire, en continuité. On a un paysan qui est un paysan qui n'a pas voulu, qui n'a pas une grande exploitation, hein, qui s'installe en 1947 avec sa femme, donc dans la commune toute proche de celle de chez ses parents. Et là, il a 7-8 hectares de production laitière classique, dans le sud pays d'Auge, quelques parcelles. Et puis, c'est un paysan atypique par rapport au mouvement de modernisation, puisque cette modernisation, elle va se restreindre à quelques éléments de confort dans la maison, mais et du point de vue de l'exploitation, ça va être l'achat d'un tracteur, milieu des années 60, une amélioration de l'étable, hein, avec des aides de l'État, très peu de choses, sauf, et là c'est un trait intéressant, une voiture dès 1951. Une vieille voiture achetée d'occasion, mais qui va permettre à Pierre Le Bugle d'être un peu le taxi pour l'ensemble des habitants du hameau, hein, pour aller à la messe, pour aller de temps en temps faire un voyage vers... aller une fois aux 24 heures du Mans, une fois à Saint-Malo, une fois, et tous les ans, au même, à peu près une fois par an, toujours au mois d'août, une journée à la mer, sur la côte de Lâtre, la côte fleurie. Et là, c'est régulier. Mais, il notait des anecdotes, il notait le travail de tous les jours, et puis des choses un peu exceptionnelles. Comme beaucoup de paysans, hein, nés entre les deux guerres, il ne sait pas lettré, il a son certificat
d'études.
Mais il aime écrire. Son père, sa mère, sûrement, avait déjà des carnets.
Ils étaient paysans aussi?
Oui. On en a un du père et un de la mère. Ce n'est pas rare. Hein. Les écrits, les agendas paysans ne sont pas rares. Ils ont rarement été exploités jusqu'à présent, mais ils ne sont pas rares. On s'en est aperçu parce qu'on a fait beaucoup de conférences, hein, à la suite de l'ouvrage, dans les campagnes normandes, et à chaque fois, on a rencontré des paysans ou des enfants de paysans qui nous ont dit « j'ai les carnets de mes parents » ou « j'ai encore mes carnets », etc. D'accord. J'écrivais tous les jours ce que j'avais fait dans la journée. Avec, évidemment, des choix. Ce n'est pas exhaustif. Hein. Un exemple. On ne voit jamais Pierre Le Bugle aller boire un café dans le bar de la rue. Ouais. Quand même, c'est extraordinaire, ça. Et puis, en fait, il est décédé en 2009, hein, malheureusement, il n'a pas pu voir quelques mois après la sortie de l'ouvrage. Mais, ensuite, on a rencontré encore des gens de la commune qui nous ont dit, oui, mais on allait régulièrement boire un café ensemble et tout. Donc, il y a des choix. Évidemment, il ne s'épanche jamais sur la vie personnelle et affective. Oui. Jamais. Alors qu'on sait qu'il le fait, puisqu'il écrit à un moment donné, sa femme est à l'hôpital, il lui écrit des lettres, parce qu'il nous a aussi prêté de la documentation, de la correspondance familiale, la correspondance administrative, des documents, il nous avait tout prêté, hein, il nous a vraiment fait confiance et tout prêté. Et là, on sait qu'il écrit aussi à sa femme quand elle est à l'hôpital, dans un style complètement différent du style télégraphique qui est dans les agendas.
C'est mon passé, c'est ma mémoire, et mon chagrin s'est endormi un soir. L'herbe rase et les pommiers morts, rien n'est triste dans ce décor, on dirait l'amour qui dort.
Il est devenu agriculteur sans le vouloir vraiment. Il était l'aîné d'une fratrie de deux, il avait une sœur. Hein. Comme dans de nombreuses occasions à ce moment-là, c'est le fils qui reprend la suite d'une exploitation. Même si là, c'était sur un bien de sa femme, hein, sur l'exploitation de sa femme. Mais... ce n'est pas rare, hein, d'avoir des agriculteurs de cette époque-là qui sont mis à la tête d'une ferme sans le vouloir vraiment. Il aurait voulu sans doute être fonctionnaire, en tout cas en lien avec les autres, aider D'accord. les autres, et ça se transparaît dans sa vie, hein, puisque
si on peut dire, sa voiture taxi,
dans sa voiture taxi, mais aussi après dans ses engagements syndicaux. Il est trésorier, il a un rôle dans le syndicat agricole communal.
D'accord.
Il a été le trésorier, on a retrouvé les premiers carnets du syndicat. C'est pas un leader, hein.
Non.
Mais il participe, par exemple, à une manifestation paysanne en 1961, à Nonant-le-Pin. Il y en a partout en France à ce moment-là. Il participe à un barrage. C'est ça, une action, hein, qu'on a vu dans ses carnets. Engagement municipal. Il a fait, je crois, 7 mandats
de conseiller
et de premier adjoint. Importance aussi de la vie sociale, dans la mesure où il va à la messe. C'est quelqu'un qui apporte une importance considérable à la vie religieuse. Il va à la messe tous les dimanches, sauf exception. On a fait des graphiques dans l'ouvrage pour montrer pourquoi il n'y avait pas la messe, parce qu'on peut le voir.
Et alors pourquoi il ne va pas à la messe?
Il va pas à la messe parce que des fois il est malade, et puis l'hiver, il y a plus de travail sur la ferme, hein, donc il, des fois, il... Mais il y a des moments qu'il ne manque jamais. À la Toussaint, il va toujours à la messe, et ça on peut le voir sur les 30 années d'agenda, il va à la messe. Jamais eu d'exception entre 1945, 46 et 1961. Et en plus de ça, il est chantre. Il chante la messe dans sa paroisse, mais aussi dans d'autres paroisses pour rendre service. Pour les baptêmes, les mariages, les enterrements. Et là, pour ça, il a une petite rétribution.
Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors, du Sahara jusqu'au pôle Nord.
Il a connu une grande période de mutation. Est-ce qu'il avait conscience de ces grands changements et comment il...
Alors, il avait évidemment conscience de ces grandes transformations de l'agriculture, mais lui, si on peut dire, il n'est pas rentré dedans. Il est resté à côté. L'exploitation agricole en elle-même, hein, c'est la routine, hein, il ne veut pas se moderniser, très peu, le tracteur, c'est tout. Il ne s'agrandit pas. Plusieurs fois, il a l'occasion d'acheter ou de louer des terres proches de ses lieux. Et comme ça se fait beaucoup dans les campagnes à ce moment-là, c'est que ça se fait de voisin à voisin. C'est-à-dire qu'il y a un voisin qui arrête, qui part en retraite, donc il va proposer à son voisin s'il veut cette... Alors qu'il y a un autre paysan qui est devenu ami de Pierre Lebuve, hein, qui vit encore, monsieur Le Boucher, qui lui vient d'Eure-et-Loir, il s'installe sur une ferme, personne ne lui propose des terres à acheter ou à louer. Et Pierre Lebuve, lui, n'en veut pas. Il essaie bien d'avoir un rendez-vous Crédit Agricole pour savoir s'il peut emprunter, mais finalement, il n'est pas très entreprenant et il laisse rapidement tomber. Donc, il ne veut pas s'agrandir. Ce qu'il a, lui, suffit. Il ne veut pas, parce qu'il a 3 enfants.
Il travaille avec lui, sur
3 filles, non.
Il travaille seul.
Avec sa femme.
Avec sa femme.
Et des ouvriers agricoles. Donc, il ne veut, et je crois que c'est un élément un peu conscient, très tôt, il ne veut pas qu'il y ait de successeur à son exploitation. Et ça, on est dans des... Et c'est pas atypique, en disant l'exploitation n'est pas viable dans l'agriculture en place, l'agriculture moderne.
Donc il avait vraiment conscience des grandes transformations.
Oui, effectivement. Et
puis, c'est le symptôme de celui auquel on a imposé une succession qu'il ne voulait pas, peut-être aussi.
Peut-être aussi, peut-être aussi. Surtout que, je crois surtout que l'exploitation ne pouvait pas vivre et survivre après lui dans ce contexte-là et que ses enfants seraient malheureux sur une exploitation.
J'en ai ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.
Comment il a vécu le fait que deux chercheurs, un historien, un géographe s'intéressent à son cas? Il a dû être assez heureux de voir que sa vie... n'était pas si banal que ça.
Effectivement, ça a été des moments forts, parce qu'effectivement, au début, sur le STO, il pensait que c'était la seule partie de sa vie qui aurait pu stimuler la recherche et un travail universitaire. Mais quand on l'a persuadé et montré que finalement, on était intéressé par ces agendas du quotidien, eh bien, il a joué parfaitement le jeu. C'est-à-dire que c'était un plaisir pour lui de se remémorer des passages de sa vie qu'il avait complètement oubliés. Si bien qu'à la fin, et on est encore en contact avec ses enfants, quand on allait le voir, il était malade à la fin, il était heureux de nous voir et d'évoquer ces éléments-là de sa vie, des éléments que ses enfants ignoraient. Parce que le quotidien, c'est quelque chose qu'on évoque évidemment à ses enfants. Et même pour les petits-enfants, on a découvert leur grand-père à travers le livre.
Oui.
Il était fier que ça puisse se transformer en ouvrage, qu'il allait devenir célèbre. On a toujours cette dimension patrimoniale que derrière Pierre Lebuve, il y a de nombreux exploitants qui ont encore des carnets, des agendas et de la documentation privée qu'on jette facilement au feu quand il y a une succession. On garde des meubles, hein, mais des papiers, des vieux papiers, des photos, etc., ou des carnets. Quelque chose qu'on met facilement au feu, et c'est un peu à travers nos conférences qu'on essaie de dire, c'est attention, conservez-les. Ça a une dimension patrimoniale intéressante, surtout dans le cas de Pierre Lebugle, qui n'est pas quelqu'un, qui est un leader agricole, qui n'est pas quelqu'un d'important du point de vue agricole, mais parce que ça montre quelque chose. Pierre Lebugle n'est pas quelqu'un d'aigri, c'est quelqu'un qui, pour lui, a réussi sa vie.
Et l'hiver, quand les mottes gèlent, je prends mes skis, mon auto, je vais à Courchevel. On me dit plus radin que brave. J'ai 300 hectares de betteraves. Par bonheur, j'ai mes portugais. C'est pas cher, c'est vaillant et c'est toujours gai.